Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Le 7-9-30 sur France Inter.
Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est née en Tunisie. Elle avait 5 ans lorsque sa famille est arrivée en France.
Bonjour Michel Fitoussi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, il y a 3 tabous qui dirigeaient, selon vous, la vie des Juifs de Tunisie. La peur, la superstition et la honte. La peur, dites-vous, on avait peur de tout.
Bah, c'est vrai. C'était plutôt une phrase que j'ai empruntée à l'écrivain juif de Tunisie, André Naoum. Mais j'ai pris ces 3 mots pour les développer. Et la peur, on avait peur de tout. Moi, je suis née avec l'angoisse.
De la noyade, de l'insolation, de l'indigestion, des moustiques, de la maladie.
De tout, absolument de tout. Et si au cas où on enfreignait les dictats parentaux, les mères nous disaient, ou les pères, attention, je vais te tuer. Donc, on n'avait aucune chance d'y échapper.
Et c'était aussi une façon de dire l'amour pour l'autre.
C'était
peur pour toi.
J'ai peur pour toi, j'ai surtout très peur pour toi, et évidemment ça se perpétue puisque j'ai eu peur pour mes enfants, etc., etc.
La superstition, voilà, le mauvais œil, voilà quelque chose partagé avec les musulmans.
Absolument, le mauvais œil, le 5, le chiffre 5 aussi, qui garantit du mauvais œil. On parle pas de ce qu'on doit faire, de ce qu'on a à faire, de peur de l'attirer sur soi. Oui, oui, j'ai vécu toute mon enfance avec ça, en rigolant, mais quand même, on y croit un tout petit peu.
Et la honte. La honte qui s'apparentait parfois à de la timidité. Cette honte collante et inutile, qui gâchait le plaisir, elle nous a poursuivis jusqu'en France, écrivez-vous.
Oui, parce que on avait honte. Oh, mon Dieu, j'ai honte des voisins. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est le qu'en dira-t-on en réalité. Ouais. Et puis quand on arrive en France, c'est la honte de ne pas être dans les clous, de ne pas avoir les bons codes, d'être un peu basané, d'avoir un accent un peu prononcé.
Comment on dit française?
Alors, quand j'étais enfant, je disais française, parce que je ne voulais pas précisément avoir cet accent, je ne comprenais pas d'où il me tombait, c'était insupportable pour moi.
La honte d'être juif, d'être des juifs immigrés, même si nous nous sentions français, surtout parce que nous nous sentions français, mais pas tout à fait comme les vrais que nous appelions et que nous appelons encore pour les différencier de nous, les Français.
Oui, les Français de France en réalité, parce que les Français de France sont les vrais, entre guillemets. Nous, on est les Français de Tunisie, même si depuis tellement longtemps, on est devenus des Français à part entière, bien sûr. Mais il reste toujours cette petite part de différence qu'on a tous chevillée au cœur et à l'âme.
Et c'est cette histoire des Juifs de Tunisie devenus Français sans avoir jamais foulé le sol de France. Et c'est cette identité passionnante et complexe que vous racontez dans votre livre, Michel Fitoussi, qui s'appelle « La famille de Pantin ». Ces Juifs de Tunisie devenus français sans avoir foulé le sol de France.
En fait, ils sont devenus français, une partie d'entre eux du moins, en 1923, avec la loi Morino. Il fallait qu'ils leur demandent cette nationalité française. Les Français étaient en Tunisie, la France était en Tunisie à partir de 1881, sous forme de protectorat. Et les Juifs, peu à peu, ont glissé de la culture arabe à la culture française et l'ont adopté peu ou prou et jusqu'à demander la nationalité. Mais c'est vrai qu'avant l'indépendance de la Tunisie, on allait un peu en France, on allait en villégiature, mais quand on était bourgeois, mais jamais on n'aurait pensé, jamais mes parents n'auraient pensé, avant l'indépendance, habiter la France.
Bonjour, mois de juin, prends-moi par la main, conduis-moi jusqu'à ce train, ce petit train blanc qui va dans Dinan, sous le soleil éclatant, la goulette, à l'approche de l'été, vous qui d'amour êtes en quête, venez vous y installer, à chaque instant c'est la fête, regardez grouiller les rues, c'est le plus beau coin de la planète, la goulette c'est bien connu, c'est le plus beau coin de la planète, la goulette c'est bien connu.
C'est les Henri Tibi, né en 1930 à Tunis, mort en 2013 en France, et enterré au cimetière de Pantin, parce que Pantin, le fief, c'est un cimetière.
Absolument, le cimetière de Pantin, là où est enterrée ma famille maternelle, mes grands-parents, ma mère, mon oncle et ma tante, et que nous allons chaque année, avant les fêtes, visiter comme s'ils étaient de notre famille. C'est ce que dit ma tante. Il est temps d'aller voir la famille de Pantin. Et après tout, c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ne sont pas de notre famille. Ils sont nés en Tunisie, ils sont enterrés en France, à Pantin.
Et chaque tombe, dites-vous, atteste d'un destin minuscule écrit à l'encre de l'exil.
Moi, quand je suis là-bas, je ne fais pas comme ma tante qui a une liste de courses pour mon grand-père et qui demande des bienfaits pour toute la famille. Mais je regarde les tombes et je regarde les noms. Et ça m'intéresse beaucoup de voir tous ces noms juifs dans ce carré juif. Les noms tunisiens, les noms ashkénazes, les noms livournais, les noms qui viennent de tous les coins de la planète, des noms juifs que je reconnais. Et je me dis vraiment, il a fallu beaucoup de valises, beaucoup de larmes, beaucoup de départs, beaucoup de billets de bateau, d'avion, cet arrachement qu'est l'exil et que tous les juifs sur la planète connaissent.
Alors, vous voilà arrivé en France, vous avez 5 ans seulement, et pourtant cette terre de Tunisie, elle est profondément ancrée en vous. D'ailleurs, vous dites dans ce livre, Michel Fitoussi, vous dites « Je sais reconnaître un Tunisien, juif, musulman, italien, français, aux mimiques, à l'accent, aux intonations, au sourire, à la façon de manger, de parler, de se taire. »
Et nous nous ressemblons tous. Et c'est ça qui est important, c'est vrai. Parce que quand je vais en Tunisie, ça m'est arrivé d'y retourner énormément de fois depuis mon départ, j'ai l'impression de voir des cousins, les visages sont familiers, les gens avec qui je parle, c'est incroyable. Je rencontre des Italiens de Tunisie, je sais qu'ils sont de Tunisie, j'entends un chauffeur de taxi parler l'arabe, je sais que c'est de l'arabe tunisien, même si je ne parle pas l'arabe.
La célèbre synagogue de Griba, qui dresse dans l'île de Djerba ses murs deux fois millénaires, a retrouvé cette année encore, à l'occasion de la Pâque juive, la foule venue pour le traditionnel pèlerinage. Partie des confins de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte et de plus loin encore, les fidèles, selon la coutume, ont suivi la procession de la Ménara. Tous ceux qui ont invoqué l'aide du Saint-Lieu, tous ceux dont les vœux ont été exaucés, ont tenu à venir déposer leur offrande et la Griba, depuis des siècles, étend sa protection sur les Israélites du monde entier.
Incroyable archive de l'RTF, ouais, qui date de 1947, le pèlerinage à Djerba. Elle n'est pas tant racontée que ça, Michel Fitoussi, l'histoire des Juifs de Tunisie. D'ailleurs, pendant longtemps, vous-même, vous vous êtes dit, voilà des Juifs sans histoire.
Mais je l'ai cru, parce que l'histoire, on la racontait pas. On racontait les souvenirs, comme ça. Ma grand-mère avait beaucoup de regrets. Moi, j'avais pas envie de l'entendre. En tout cas, ils parlaient beaucoup, parce qu'ils ont une faconde, une façon de parler. Nous sommes très volubiles, mais ils disaient pas grand chose à part des souvenirs. Et je ne savais, moi, j'ai appris très tard que nous étions en Tunisie, les Juifs en Tunisie, les Juifs au Maghreb étaient là depuis la nuit des temps, depuis la destruction du premier temple en Judée, bien avant la conquête arabe du 8e siècle. Je ne savais pas que c'était leur terre. Moi, j'ai cru qu'on était là par accident et que nous sommes partis parce qu'il fallait rejoindre la France. Et c'est cette histoire, oui, que j'ai voulu raconter, qui n'est pas tant documentée que
non.
ça. Et qui est documenté par des historiens, des sociologues. Maintenant, il y a pas mal de choses. Il n'y en avait pas du tout avant les années 90.
J'avais honte, je me sentais mal à l'aise, comme si j'avais commis une faute, écrivez-vous, Michel Fitoussi, vous qui grandissez en France, vous qui grandissez dans un collège catho.
En fait, je suis en Tunisie et je suis dans cette institution pour jeunes filles où les parents de la bourgeoisie musulmane et française et tunisienne envoient leurs enfants et juifs bien sûr et il y a la prière et je ne sais pas de quoi on parle, je ne comprends rien et je sais qu'il faut que je le fasse mais je ne peux pas le faire puisque j'ai l'impression de commettre un péché et là encore ça fait partie des non-dits oui effectivement je suis juive, ma famille est assez déjudaïsée, donc je sais qu'il y a des fêtes, mais je ne sais pas de quoi on parle. Voilà, ça c'est aussi, c'est compliqué.
Et arabe, est-ce que vous vous sentez arabe ?
Pas du tout. Pas du tout. Je me sens de culture française. Je sais qu'en Tunisie, il y a eu les Juifs de culture arabe, évidemment, puisque avant le protectorat, nous étions tous de culture arabe, évidemment. Nous, c'était deux peuples très fusionnels à part la religion. Et puis les Français, en arrivant, ont changé la donne pour la plupart des Juifs de Tunisie. Je dis la plupart, hein, parce que beaucoup aussi sont restés avec cette culture, imprégnés de cette culture arabe. Donc je dis plutôt Juifs tunisiennes ou Juifs de culture arabe, bien que moi, la culture arabe, je l'ai en fait dans l'ADN, si vous voulez, parce que je la connais un peu, mais pas tant que ça. C'est plutôt la je suis plutôt partie du côté de la France. Mais vous, là, vous me voyez parler avec les mains.
Je vous vois parler, les auditeurs vous entendent.
Et si je fais pas très attention, j'ai un accent, je peux avoir un accent assez prononcé. Et puis j'aime la nourriture, etc. Donc tout ça.
Mais pendant longtemps, vous avez voulu être une juive pas juive.
Oui, parce que...
Le moins juif possible.
Le moins juif possible, parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Je voulais être française, je ne voulais pas appartenir à ma tribu de juifs tunisiens, je ne comprenais pas les fêtes, ça ne m'intéressait pas, la religion ne m'intéressait pas, ça m'intéresse toujours très peu d'ailleurs. Je n'avais pas compris en fait que je pouvais appartenir au judaïsme, faire état de ma judéité, comme le dit Albert Memmi, qui a inventé ce terme avec beaucoup de justesse, mais je ne voyais pas comment je pouvais l'être sans l'être, en réalité. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me réconcilier avec ces racines-là aussi, qui font partie intégrante de mon identité.
Il est 9h19, vous écoutez France Inter, Michel Fitoussi est mon invité avec toute sa famille de Pantin. Ils vont tous nous rejoindre, vous allez les voir, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, avec leurs grands, on va dire, avec ce qu'ils ont de plus solaire et aussi avec ce qu'ils ont de plus sombre. Jones chante Can You Believe? Puisqu'on parle de bonnes histoires ce matin, j'en ai une autre à vous suggérer. Elle s'intitule Tante Alice enquête. C'est un petit polar irrésistible. Le mystère à résoudre, écoutez-moi bien. Qui a assassiné le pape du développement personnel? L'auteur n'est autre que Ali Rebehi, le pape de grand bien vous fasse. Alors rien que ça, évidemment, on rigole déjà beaucoup. Ça fait bien marrer Michel Fitoussi et on se lèche les babines. Le livre paraît aux éditions du Masque.
Le 7-9-30. L'interview de Sonia De Villers.
Michel Fitoussi est venu nous voir avec sa famille de Pantin, son livre qui est paru chez Stock. Un très beau livre qui raconte beaucoup de choses sur les déchirures de l'exil, sur comment, évidemment, ce poids de l'exil se transmet de génération en génération, et sur l'histoire de ces Juifs de Tunisie, ce rapport complexe qu'on peut avoir ou ne pas avoir au judaïsme. J'aimerais qu'on parle plus précisément de vos parents, parce que c'est un immense portrait de famille, cette famille de Pantin. Et c'est aussi l'histoire de votre mère, qui est une histoire déchirante, je l'ai dit, faite d'ombre et de soleil. Et de soleil, d'ailleurs, vous le dites vous-même, on avait l'impression d'avoir deux mères.
Oui, c'était très curieux. Maman a été maniaco-dépressive, c'est ce qu'on disait à l'époque, on dirait bipolaire aujourd'hui. Et elle était à la fois trop élégante, très intelligente, très charmante. C'était toujours la fête avec elle, sauf quand elle retombait malade. Et à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. C'était très compliqué d'avoir quelqu'un comme ça qui avait deux faces de visage, et un visage très, très sombre et un visage très, très solaire. Et quand elle était très sombre, ma sœur et moi, c'était très compliqué de vivre avec elle, et on ne comprenait
pas. Et de vivre sans elle, elle était internée, elle était soignée, elle était médicalisée dans ces périodes-là.
Elle était très médicalisée, donc on l'attendait. Notre famille de Pantin ou de Paris prenait soin de nous, mon père, mes oncles, mes tantes, on ne manquait de rien, on a été extrêmement choyés. Mais on l'attendait avec impatience, parce qu'on disait, on va tout recommencer. Et elle revenait, la fête reprenait, et puis un jour, ça elle retombait. Et ça, quand on n'a pas vécu ça, on ne sait pas comment le comprendre. Alors je me suis demandé plus tard si c'était l'exil qui avait exacerbé ça. Non, parce que j'ai appris qu'elle était déjà malade en Tunisie. Dans ma famille, il y a beaucoup de dépressifs. Alors, des gens aussi solaires et à la fois sombres et solaires. Alors, la rasras, qu'on dit en Tunisie, l'angoisse et puis le goût du plaisir. Elle avait ces deux choses-là en elle, mais très, très exacerbées. Et c'était très compliqué à comprendre.
Gisèle Halimi fait partie des figures qui surgissent là où on ne les attend pas forcément. Gisèle Halimi, avocate comme votre père, avocat. Gisèle Halimi, de la même génération d'ailleurs que votre père avocat, Michel Fitoussi. Gisèle Halimi qui vous a montré la voie du féminisme, parce que vous êtes de cette génération-là, et pourtant c'est pas exactement dans la culture tunisienne.
Non, et c'est vrai que c'était très surprenant de voir, d'apprendre que cette femme, qui a écrit d'ailleurs quelques livres sur son enfance tunisienne et les interdits et les tabous et tout ce qu'elle a dû lutter pour s'en sortir, c'était plus facile pour ma génération que la sienne. Et ça, c'était vraiment formidable. C'est une des grandes figures du féminisme qui m'ont éclairée, comme plus tard, comme tout le monde, enfin toutes les femmes de ma génération, Beauvoir ou les autres. Mais elle, particulièrement, parce qu'elle savait d'où on venait, de ce patriarcat, et ce matriarcat aussi, mais c'était qui préservait le patriarcat, mais de ce patriarcat où les filles ne veulent pas travailler, devaient servir leur mari, devaient rester dans l'ombre, devaient tenir la maison. Ma grand-mère, Sarah, que j'adorais, disait, mais tu ne sers pas ton mari Et je disais, il a qu'à me servir lui-même. Donc voilà, on est de cette éducation-là aussi, où il fallait un bon mari, il fallait. Mais j'ai eu la chance que mes deux parents, et ma mère et mon père, disent, mais non, les filles font des études, et de nous avoir encouragés, ma sœur et moi, dans cette voie-là, qui n'était pas forcément le mariage en prime, mais d'abord les études et l'autonomie. Mais c'était pas donné, c'était pas le cas de tout le monde.
Il y a un très beau personnage dans ce livre, c'est Albert.
Alors Albert, c'est mon grand-père qui avait une mercerie qui s'appelait les Dames de France à Tunis, en face du marché central, qui était très émancipée déjà dans les années 20, qui le premier est devenu français, qui était d'un courage absolu.
Donc après 1923, hein, justement, quand l'équivalent du décret Crémieux est passé.
L'équivalent, oui, parce que le décret Crémieux en Algérie, 1870, a naturalisé tous les Juifs algériens, et ils sont devenus français. Mais en Tunisie, il fallait choisir sa nationalité, et en 1923, avec la loi Moreno, Albert a tout de suite voulu devenir français, comme il a tout de suite sorti du ghetto pour aller à Tunis, habiter Tunis dans les beaux quartiers. C'était quelqu'un qui avait le progrès chevillé au corps. Il s'est beaucoup déjudaïsé aussi. Il ne croyait pas tellement, il ne mangeait pas cachère. Et puis, il a été extrêmement courageux, parce que quand il est venu en France, Albert, après la guerre, a eu une amputation, probablement due à son séjour en prison pendant l'occupation allemande.
Occupation allemande qu'on raconte très peu aussi, l'occupation allemande de Tunisie.
On la raconte très peu parce que quand les Juifs de Tunisie ont voulu dire qu'effectivement eux aussi avaient souffert, qu'ils ont eu 700 morts, que les Allemands sont venus entre 1942 et 1943, qu'ils ont voulu construire des camps de travail, qu'ils les ont construits d'ailleurs, qu'ils ont raflé des jeunes gens pour aller les construire, qu'il y a eu des bombardements alliés que les Juifs
en
ont 43. Porté en 43, que les Juifs ont porté, et même dès 42, que les Juifs ont porté l'étoile jaune, dont mon père d'ailleurs, qui avait 15 ans, en tout cas dans le sud de la Tunisie. Mais quand on a voulu parler, les Juifs européens évidemment ont dit bah nous
on a vécu
voilà
la Shoah.
On a vécu la Shoah et donc c'était terminé, on pouvait plus avoir droit à la parole et c'est peu à peu qu'on a su tout ça et très peu de gens savaient ou en tout cas ils n'ont pas voulu en parler. En tout cas nous dans ma famille on en parlait avec beaucoup de drôleries. Ma grand-mère racontait comment elle était allée au siège de la commandanture pour récupérer mon grand-père otage des Allemands pour l'échanger contre mon oncle qui avait 16 ans et puis finalement elle a eu l'autorisation de lui apporter de la nourriture donc elle lui apportait tous les jours des couscous à la prison. Donc cette guerre-là, nous, je l'ai toujours entendue traiter sur un mode drôle. Il faut du temps pour comprendre que le mode drôle n'est qu'une façade et que l'insouciance qu'on montre aux autres cache en réalité des choses beaucoup plus graves. Et ça, je l'ai compris assez tard en réalité.
Merci beaucoup, Michel Fitoussi. La famille de Pantin, une grande famille à lire et paru chez Stock.